Chapitre 24. Un soldat chrétien. On déposa le corps du jeune martyr sur la voie aurélienne, dans le cimetière qui bientôt porta son nom, et le donna, comme nous l'avons déjà dit, à la porte voisine. Quand la paix se fut levée pour les chrétiens, on éleva une basilique sur la tombe de l'adolescent martyr. Elle est encore debout et perpétue sa gloire. La persécution augmentait de fureur et chaque jour lui apportait un nouveau tribut de victimes. Un grand nombre des personnes que nous avons vues à la villa de Chromatius se succédèrent rapidement dans le martyr. La première victime fut Zoé, que Sébastien avait guérie du mutisme. Une bande de païens la surprit, priant sur la tombe de Saint-Pierre. Elle fut jugée et condamnée de suite. On la suspendit la tête en bas, au-dessus d'un feu ardent qui bientôt l'étouffa. Son mari fut arrêté avec trois autres chrétiens de la même communauté. On les tortura à plusieurs reprises et on finit par les décapiter. Tranquillinus, le père de Marcus et de Marcellianus, jaloux de la couronne de Zoé, alla prier ouvertement sur la tombe de Saint-Paul. On l'arrêta et on le lapida sur le champ. Ses deux filles souffrirent aussi une mort cruelle. La trahison de Torquatus, qui avait décrit exactement ses anciens compagnons, et particulièrement le courageux Tiburtius, qui fut décapité, facilita cette extermination des chrétiens. Sébastien s'agitait au milieu du carnage. Il n'était pas comme un constructeur qui voit son œuvre détruite par la tempête, ou comme un berger qui contemple son troupeau dispersé par les voleurs. Mais, semblable à un général sur le champ de bataille, le brave Sébastien ne comptait que les victoires. À chaque nouvelle recrue qui partait pour le ciel, il se réjouissait en songeant que les martyrs, ces témoins intrépides, obtiendraient du Christ la victoire et se sentaient tout disposés à sacrifier sa vie pour la même cause. À chacun des êtres aimés qui disparaissaient devant lui, se brisait un des liens qui l'attachaient à la terre, et ce lien si cher l'attirait au ciel. Chacune de ces morts était un souci de moins pour lui ici-bas, un attrait de plus qu'il appelait en haut. Il allait s'asseoir solitaire maintenant, ou s'arrêtait en silence à chacun des endroits où, avec Pancratius, il avait conversé si souvent. Alors il se rappelait la grâce impétueuse et tendre, les pensées sublimes, la vertu intrépide et modeste de l'aimable et bel adolescent. Il ne lui semblait pas être plus séparé de cet ami si cher qu'il ne l'était lors de son expédition en Campanie. Il n'avait plus de responsabilité envers l'enfant courageux et téméraire qu'il voulait diriger. Maintenant, son tour allait venir. Il le sentait bien, l'intrépide tribun. La grâce du martyr soulevait sa poitrine et, dans une calme certitude, il attendait son heure. Ses préparatifs furent simples, il distribua aux pauvres tout ce qu'il possédait de valeur et il vendit ses propriétés afin de les mettre à l'abri de la confiscation. Fulvius avait ramassé sa bonne part dans les dépouilles des chrétiens. Mais, en résumé, il était désappointé. Il n'avait pas été obligé de demander des secours à l'empereur dont il évitait la présence. Mais il n'avait rien économisé. Il ne s'était donc pas enrichi. Chaque soir lui ramenait les reproches et l'interrogatoire méprisant d'Eurotas sur les succès de la journée. Enfin, il put dire à ce maître implacable, car Eurotas était devenu son tyran, qu'il allait frapper un grand coup. Il avait découvert un chrétien, officier favori de l'empereur, qui devait avoir amassé une grande fortune au service. Il n'attendit pas longtemps une occasion favorable. Le 9 janvier, l'empereur tint sa cour. Tous ceux qui demandaient des faveurs ou qui redoutaient la colère impériale se rendirent au palais. Fulvius fut reçu avec la froideur accoutumée. Après avoir supporté en silence les malédictions grommelées contre lui par la brute impériale, il s'avança hardiment vers lui et, s'inclinant devant son trône, lui parla en ces termes. « Seigneur, votre divinité m'a souvent reproché de ne lui avoir apporté, en retour de son gracieux accueil et de ses libéralités, qu'un faible service par mes découvertes. Mais j'ai dépisté aujourd'hui le plus coupable des complots, la plus basse des ingratitudes, dans un homme qui est en contact immédiat avec votre divine personne. » « Que veux-tu dire, drôle ? » demanda le tyran avec impatience. « Explique-toi sur le champ ou je ferai arracher les mots de ta gorge avec un crochet. » Fulvius se leva, étendit la main en prononçant ces paroles d'un accent rempli d'une doucereuse amertume. Sébastien est chrétien. L'empereur bondit de son trône avec furie. Tu mens, traître, tu vas me prouver la vérité de ce que tu avances ou tu souffriras une mort plus affreuse que jamais chien de chrétien n'en a enduré. J'ai consigné ici toutes les preuves suffisantes, répondit-il, tirant de sa toge un parchemin qu'il remit, toujours agenouillé, à l'empereur. Maximilien allait répondre par des paroles de colère quand, à son grand étonnement, Sébastien, avec son calme regard et son noble maintien, se présenta devant lui et lui dit de la voix la plus calme « Mon prince, vous n'avez pas besoin de chercher ces preuves contre moi. Je suis chrétien et je me glorifie de ce nom. » Maximilien était un soldat brutal, quoique habile au combat. Il n'avait reçu aucune éducation et pouvait à peine s'exprimer dans un latin convenable lorsqu'il était maître de lui-même. Mais quand la colère le dominait, son langage devenait trivial jusqu'à la grossièreté. Il prononçait des phrases entrecoupées qu'il mêlait d'épithètes vulgaires et injurieuses. En ce moment, il se laissait aller à la fureur. Il accabla Sébastien des injures les plus grossières, l'accusa de tous les crimes, lui donna les épithètes outrageantes qui composaient son vocabulaire de fureur. Mais les deux accusations sur lesquelles il s'apesantit le plus étaient l'ingratitude et la trahison. Il avait nourri, disait-il, une vipère dans son sein, un scorpion, un mauvais démon, et il s'étonnait d'être encore en vie. L'officier chrétien reçut la charge avec intrépidité, comme il supportait l'assaut de l'ennemi sur le champ de bataille. « Écoutez-moi, mon royal maître, répondit-il enfin. C'est peut-être pour la dernière fois que je vous demande cette faveur. Je vous l'ai dit, je suis chrétien, et cette déclaration devrait être pour vous un gage de sécurité. » « Que voulez-vous dire, ingrat ?»« Ceci, noble empereur, si vous voulez vous entourer d'une garde d'hommes fidèles qui répandraient pour vous leur sang jusqu'à la dernière goutte, allez dans les prisons et prenez les chrétiens qui, semblables à des troupeaux, sont enchaînés sur les pavés humides et retenus dans les anneaux de fer attachés à la muraille. Envoyez dans le prétoire et faites enlever les confesseurs mutilés, étendus sur le gril et sur le chevalet. » Donnez des ordres aux amphithéâtres et arrachez les victimes encore en vie de dessous la griffe des tigres cruels. Faites soigner ces victimes, mettez-leur des armes à la main et faites-vous garder par eux. Et ces hommes, maltraités et mutilés, se montreront plus fidèles, plus braves, plus dévoués, plus intrépides que vos légions de Daces et de Pannoniens. Vous avez pris déjà la moitié de leur sang, ils vous donneront volontiers celui qui reste dans leurs veines. Folie et stupidité ! S'écria le sauvage empereur en ricanant. Je m'entourerai plus volontiers de loups que de chrétiens. Ta trahison me prouve assez que j'aurai raison. Si j'eusse été un traître, Seigneur, qui m'eût empêché d'agir comme un traître ? N'ai-je pas axé le jour et la nuit près de votre royale personne, et vous ai-je trahi en quoi que ce fût ? Non, Seigneur, jamais empereur n'a eu un serviteur plus fidèle que je ne l'ai été envers vous. Mais j'ai un autre maître plus grand que vous à servir. Un jour viendra où il nous jugera tous les deux. Je dois obéir à ses lois avant de me soumettre à vos désirs. Mais pourquoi, alors, comme un poltron, cacher votre religion ? Vous espériez sans doute échapper à la mort cruelle que vous méritez ? Non, Seigneur, je ne me suis pas montré plus craintif que traître. Vous le savez mieux que personne. Ces deux sentiments me sont également étrangers. Aussi longtemps que j'ai pu faire quelque bien à mes frères, je n'ai pas refusé de vivre au milieu de leurs massacres et de mes douleurs de chaque jour. Mais l'espoir s'éteint en mon cœur, et je remercie sincèrement Fulvius de m'avoir épargné par son accusation la peine de choisir entre les souffrances de la mort et le tourment de la vie. Je déciderai ce point à votre place. Vous désirez la mort, elle viendra par degrés, lente, cruelle, prendre possession de votre être. Mais, ajouta le tyran comme en se parlant à lui-même, il ne faut pas que cette nouvelle se répande. Tout s'accomplira tranquillement dans le palais, de peur que le goût de la trahison ne gagne au dehors. Ici, Quadratus, saisissez votre tribun et tenez-le en état d'arrestation. Entends-tu, buse stupide ? Pourquoi n'avances-tu pas ? Parce que, moi aussi, je suis chrétien. La colère impériale redoubla de fureur. Maximilien vomit un nouveau flot d'injures qui finirent par l'ordre d'exécuter tout de suite le robuste centurion. Mais Sébastien était réservé à un autre genre de supplice. « Qu'on appelle Ifax !» hurla le tyran. Au bout de quelques minutes, un numide d'une taille herculéenne, à demi nu, entra. Un arc immense, un carquois rempli de flèches, sur lequel on voyait d'étranges peintures, une épée courte, étaient les seuls ornements et les armes du capitaine des archers africains. Il se tenait respectueusement debout devant l'empereur, comme une de ces belles statues de bronze aux yeux de diamants brillants. « Ifax, j'ai de la besogne pour vous demain matin. Il faut qu'elle soit bien faite, » dit l'empereur. « Très bien, seigneur, » répondit le chef noir, avec une grimace qui montra les mailles brillantes de ses dents blanches et fit jaillir des étincelles de ses yeux. « Tu vois le capitaine Sébastien ?» Le nègre salua en signe d'assentiment. « Eh bien, il est devenu chrétien !» Si Ifax, se trouvant dans son pays natal, avait tout à coup posé le pied sur un aspic enroulé dans l'herbe ou sur un nid de scorpion, il n'eût pas tressailli davantage qu'à cette soudaine déclaration. La pensée de se trouver si près d'un chrétien le faisait trembler, lui qui adorait toutes les abominations, qui croyait toutes les absurdités, se laissait aller à tous les crimes. Maximilien continua. À chaque membre de phrase, Ifax marquait son assentiment par un signe de tête et par ce qu'il appelait un sourire et qui était à peine une grimace humaine. « Vous emmènerez Sébastien dans vos quartiers et demain matin, dès l'aurore, non pas le soir au moins, car à ce moment vous êtes tous ivres. Quand vos mains seront fermes et sûres, vous l'attacherez à un arbre du bosquet d'Adonis et lentement, vous le ferez mourir à coups de flèche. Seulement, rappelez-vous le bien. Pas de vos beaux coups qui traversent la poitrine et vont droit au cœur. Mais envoyez-lui un grand nombre de flèches jusqu'à ce qu'il expire, épuisé par la douleur et la perte de son sang. Allons, me comprends-tu? Alors, emmène-le sur le champ et surtout du silence ou bien...